Donc on a mis en place toute une stratégie qui reposait notamment sur des publicités méta. Donc on s'était dit, on a envie de parler de la marque, donc on va créer une landing page avec un message assez impactant. Donc le message, c'était « marre d'être habillé en panneau signalisation dans la nature ». On avait vraiment une photo de banque d'images, c'était pas forcément la page la plus esthétique en soi, mais on avait réussi à toucher à la problématique de notre audience, avoir un message en plus un peu humoristique. Et du coup, on s'était dit, on a cette page, on va utiliser les publicités Meta pour faire venir un maximum de personnes, donc de femmes en l'occurrence, sur la page et créer cette première base de données. Et comme ça, on pourra faire vraiment un teasing en envoyant des mails régulièrement pour commencer à parler de la campagne, à parler de l'histoire de la marque et surtout leur demander leur avis sur les produits.
Réinvention.
Tu as un projet de grande ampleur, tu veux développer une marque de cosmétiques, de bien-être, de food ou de vêtements. Bref, tu as envie de voir les choses en grand. Et pour ça, tu as besoin d'un financement. Alors oui, tu as bien pensé à aller voir ton banquier pour financer ton projet, mais peut-être que le prêt bancaire n'est pas suffisant. Or, tu sais qu'il existe des solutions comme le crowdfunding. C'est une alternative concrète et viable pour financer tout type de projet. Et en plus, si on regarde les chiffres, le crowdfunding connaît des records en 2022 et 2023 avec plus de 2 milliards collectés, tous secteurs confondus. C'est un mécanisme financier qui parle au plus grand nombre de par sa simplicité et sa transparence au service de projets souvent de proximité. Mais attention, le crowdfunding ce n'est pas magique car près de 40% des projets échouent sur les différentes plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank ou d'autres plateformes que tu connais. Réussir sa campagne de crowdfunding ne s'improvise pas et ça nécessite d'en maîtriser les rouages. Alors, si tu as en tête une campagne de financement participatif pour toi ou pour l'un de tes proches, eh bien cet épisode est fait pour toi. On vous dévoile les étapes clés pour mener votre campagne de crowdfunding de manière efficace avec Clémence Chauffé. Clémence est une experte en crowdfunding et en acquisition digitale. Elle mixe les deux pour propulser les marques engagées et elle nous dit tout. Qu'est-ce que c'est vraiment une campagne de crowdfunding et à quel type de marque elle s'adresse? Pourquoi faire une campagne de crowdfunding lorsqu'on se lance? Quelles sont les étapes clés qu'elle recommande pour réussir sa campagne et pour bâtir une communauté? Comment faire pour toucher ces différents cercles et en particulier le deuxième et le troisième cercle? Quelle doit être la durée d'une campagne? Elle nous donne tous ses conseils et tous ses tips pour qu'on puisse réussir nos campagnes de crowdfunding. Alors c'est parti, on t'emmène avec nous. Hello Clémence, je suis super contente de t'accueillir.
Hello, je suis super contente d'être là aussi.
Aujourd'hui, on va parler de crowdfunding, de communauté, de financement participatif, mais on va commencer par parler de toi. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et peut-être si tu t'es réinventé ce que tu faisais avant?
Ouais, ça marche. Donc moi, je suis Clémence Chauffé. Ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je travaille dans le secteur du marketing en général. J'avais commencé par bosser en agence de communication chez Publicis, donc l'agence spécialisée en référencement payant qui s'appelle Performix. Et ensuite, j'avais travaillé chez Ulule, la plateforme de financement participatif. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment les deux casquettes, à la fois le côté crowdfunding et marketing digital et même acquisition payante en particulier. Suite à mon expérience chez Ulule, je me suis lancée en freelance. Donc maintenant, ça fait 4 ans. Ça fait même 4 ans pile en octobre. Et donc, depuis 4 ans, j'accompagne des porteurs et porteuses de projets qui lancent leur campagne de financement participatif, donc sur Ulule et sur d'autres plateformes généralistes. Et je les accompagne particulièrement sur la définition de la stratégie marketing, donc tous les leviers qu'ils et elles peuvent activer pendant et avant une campagne de financement participatif. Et en parallèle, j'accompagne aussi d'autres marques engagées, donc aussi sur la partie acquisition digitale. Et je suis formatrice externe pour Ulule, qui a maintenant plusieurs offres de formation, notamment des formations en marketing et en crowdfunding. Voilà. Et je suis basée à Madrid depuis 3 ans. Je suis originaire de Normandie et j'ai vécu pas mal d'années à Paris, mais je suis partie dans une région où il fait un petit peu plus chaud.
Donc tu es une réinventeuse sur tous les fronts. Tu as réinventé la manière de faire du marketing, d'accompagner les marques engagées et de te localiser vu que tu es en Espagne. Trop bien. On adore les profils comme ça.
Du coup, on va parler justement de crowdfunding, de participation et de communauté. Est-ce que tu peux nous redire, en fait, pour les personnes qui nous écouteraient et qui ont vécu dans une grotte, c'est quoi, en fait, une campagne de crowdfunding et à quel type de marque ça s'adresse? Est-ce que c'est plus aux produits ou services? Dis-nous tout.
Alors, crowdfunding, du coup, financement participatif, donc crowdfunding, ça vient de l'anglais crowd, donc la foule, et funding pour financer. Donc, tout simplement, c'est le fait de financer un projet grâce à la foule, donc grâce à l'aide d'un grand nombre de personnes. Donc on distingue plusieurs types de crowdfunding, notamment tout ce qui est collecte de dons, ce qu'on peut faire sur des plateformes comme GoFundMe par exemple. Ça peut être aussi l'equity crowdfunding, donc quand on a vraiment une part du capital d'une entreprise. Le crowdfunding aussi avec des prêts entre particuliers. Et le crowdfunding, ce qu'on appelle de don contre don, donc avec récompense, qui est surtout celui dont on va parler aujourd'hui et celui qu'on connaît généralement. Donc en France, les grandes plateformes de crowdfunding de récompense, c'est notamment Ulule, KissKissBankBank. Après, il y a des plateformes plus internationales comme Indiegogo et Kickstarter. Donc là, on va vraiment participer au financement d'un projet, donc l'aider à voir le jour. Et en contrepartie, on va recevoir le produit, le service ou une contrepartie symbolique. Donc c'est pour ça qu'on parle de don contre don.
Oui, par rapport à la deuxième partie de la question, ouais.
Ouais, donc ça s'adresse vraiment, en tout cas, le crowdfunding de récompense, vraiment à toutes les marques, qu'elles aient déjà un service, un produit, ou alors des marques qui viennent vraiment de se créer et qui veulent vraiment tester le marché. Et ça peut être à la fois pour des services et des produits. Produits en termes de définition de contrepartie, c'est un peu plus simple, mais il y a aussi, par exemple, des applications web, des plateformes qui se sont lancées via des plateformes de crowdfunding comme Ulule. Donc, ça peut très bien aussi s'adresser à des services.
D'accord. Et pourquoi, en fait, faire une campagne de crowdfunding à la base, à part récupérer des fonds de la foule, enfin, lorsqu'on se lance ou peut-être quand on est dans un pivot de son activité, quel type d'avantages tu vois, toi, pour les marques, les prestataires de services?
Ouais, mais déjà, souvent, il y a un premier objectif qui est un objectif financier. Quand on a un besoin de trésorerie et qu'on peut pas, on ne veut pas passer par des modes de financement plus traditionnels. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être justement de faire un peu un test grandeur nature et tester son marché, voir s'il y a une appétence, voir s'il y a un besoin aussi pour le produit qu'on veut lancer. Donc, ça permet vraiment de voir un peu la réaction, voir si les gens ont envie de précommander et pouvoir potentiellement lancer une première production. Donc là, dans le cadre d'un lancement de produit. Et après, ça permet aussi de gagner en visibilité. C'est un peu un coup de projecteur pour les marques qui se lancent, vu que généralement, on va activer pas mal de leviers de communication, notamment tout ce qui est médias, RP, qui permettent de donner beaucoup plus de visibilité à la marque. Donc parfois, c'est aussi un objectif de faire une grosse action de communication avec cette campagne de crowdfunding. Et le dernier objectif, c'est du coup de créer la communauté, donc vraiment d'aller mobiliser des personnes qui sont intéressées par le projet. Donc ce qui peut être intéressant justement quand on vient de créer une marque, on n'a pas encore forcément de base de données, encore moins de base client, on va vraiment bâtir et fédérer du coup la communauté autour du projet.
Et le but de cette séance, c'est qu'on donne des conseils ultra activables du coup aux personnes qui ont été conquis par l'approche du crowdfunding. Du coup, tu nous parles de construire une communauté, tu nous parles de levier de communication, on va y revenir. Mais est-ce que tu peux nous expliquer vraiment quelles sont les étapes pour une campagne crowdfunding qui cartonne? Pas une campagne crowdfunding au ras des pâquerettes où on est déçu, où on remplit pas les objectifs. Vraiment une campagne crowdfunding où on déchire tous les paliers. C'est quoi les étapes que tu recommandes parce que tu es vraiment l'experte en la matière?
Alors déjà, les étapes, donc en termes de timing, déjà avant le lancement, ce qu'on conseille de faire, c'est de préparer la campagne pendant au moins 1 à 2 mois, voire plus, si on part vraiment de zéro, qu'on vient de créer la marque et qu'on n'a pas du tout de communauté. Donc, ça permet justement de mettre en place ces actions pour bâtir la communauté. Et après, il y a plusieurs actions très concrètes qu'on peut mettre en place. Déjà, généralement, ce qu'on conseille de faire aux porteurs et porteuses de projets, c'est de lister tous les contacts, ce qu'on appelle le premier cercle. Donc, la famille, les amis, toutes les personnes qu'on peut mobiliser au lancement de la campagne et les lister tout simplement sur un fichier Excel pour voir combien de personnes on pourrait mobiliser du coup dans ce premier cercle et voir du coup qui va les contacter, notamment quand on est plusieurs personnes dans l'équipe, comment on va les contacter, faire un peu un suivi. Après, la deuxième étape, si ce n'est pas encore fait, c'est de créer les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux qui peuvent être Facebook, Instagram, LinkedIn, en fonction de l'audience cible. Donc, créer ces réseaux sociaux et commencer à les animer et surtout faire venir du monde sur ces réseaux sociaux. Donc, pour le faire, il y a plein d'actions qui sont possibles. Ça peut être mettre en place des partenariats avec d'autres marques. Ça peut être d'activer aussi le réseau d'influenceurs et influenceuses. Donc, commencer un peu à faire un teasing sur le produit et que les influenceurs en parlent à leur communauté. Un des leviers aussi qui fonctionne très bien, c'est l'acquisition payante. Faire de la publicité pour, pareil, commencer à faire un teasing, commencer à promouvoir le projet. Et l'objectif, du coup, de ces campagnes d'acquisition payante, c'est à la fois de gagner en abonnés et commencer à se créer aussi une base de données avec des emails. Donc, généralement, en phase pré-campagne, on crée ce qu'on appelle une landing page. Une page de destination sur laquelle on peut commencer à parler du projet, expliquer aussi les avantages si on s'inscrit à la newsletter. Et le but, du coup, c'est de récolter un maximum d'adresses mail, donc de personnes qu'on pourra mobiliser au moment du lancement, que vraiment le lancement soit un succès, qu'on puisse très rapidement faire augmenter la jauge, donc atteindre 30%, 50% et même si possible 100% au moment du lancement. Ça fait partie des actions qu'on peut faire vraiment en phase de pré-campagne et plus simplement aussi en parler autour de nous. Donc vraiment pas hésiter à en parler à toutes les personnes qu'on peut croiser qui peuvent être de potentiels contributeurs ou contributrices.
Donc ça, c'est la phase de pré-lancement qui semble hyper importante pour créer la communauté, créer l'engouement autour du produit, du service et aussi de la cause ou de la mission qu'on a derrière. Après, il y a le pendant. Qu'est-ce que tu recommandes sur le pendant la campagne de crowdfunding et surtout combien de temps tu recommandes que ça dure? Est-ce que c'est plus du 30 jours, 60 jours, 90 jours? Quelles sont tes recommandations?
Pendant la campagne de crowdfunding, du coup, là où avant, le but, ça va être vraiment de bâtir la communauté, pendant, ça va être vraiment animer la communauté, convaincre, du coup, toutes ces personnes qui ont montré un intérêt pour le projet, de soutenir le projet et de contribuer. Et pour le faire, du coup, il y a plein d'actions qui sont possibles. Déjà, d'aller contacter toutes les personnes qui ont laissé leur adresse mail, donc envoyer des emails de manière très, très régulière et surtout leur donner envie de contribuer. Donc, comment on peut le faire? On peut, par exemple, utiliser la mécanique des ce qu'on appelle les early birds. Donc, c'est des contreparties exclusives, souvent avec un tarif réduit, pour vraiment créer un sentiment d'urgence et que les personnes n'attendent pas pour contribuer. On sait qu'en crowdfunding, il y a un effet de procrastination, pardon, qui est vraiment très, très fort. Et du coup, le but, c'est que la personne arrive sur la page et se dise, faut que je contribue dès maintenant et pas que j'attende 30, 45 jours pour le faire. Donc, créer des contreparties qui soient vraiment attractives, jouer justement sur des packs un peu plus exclusifs, des tarifs réduits. Donc ça peut être un mécanisme à mettre en place en début de campagne. Et du coup, envoyer des mails. Au début, on peut en envoyer plusieurs par semaine au moment du lancement. Après, réduire un petit peu la fréquence pour pas forcément lasser la communauté, mais pas hésiter du coup à parler du projet sur tous les canaux possibles. Donc pareil sur les réseaux sociaux. Ce qui peut être intéressant aussi sur les réseaux sociaux, c'est de faire un live au moment du lancement. Ça permet vraiment de créer un peu un momentum au moment du lancement et surtout de créer un lien assez fort avec sa communauté, que le lien soit pas uniquement des emails qu'on va recevoir, mais qu'il puisse vraiment parler avec ces personnes.
Est-ce qu'il y a des actions un peu secrètes, des choses qui peuvent relancer, parce qu'il y a la phase un peu, les early birds, comme tu as dit, après il y a un peu une phase d'essoufflement. Est-ce qu'il y a des actions justement pour relancer et garder toute la dynamique, dans la campagne?
Oui, effectivement, le crowdfunding, il y a vraiment une courbe en U. On sait qu'en moyenne, il y a 20% des fonds qui sont collectés, entre 20 et 25% des fonds qui sont collectés sur les premiers jours de campagne et pareil, 20-25% sur les derniers jours. Donc, à peu près la moitié de la campagne, du coup, qui est faite au tout début et à la fin. Donc, après, on rentre un peu dans le creux de la vague. Et là, le but, c'est du coup de redynamiser un peu la campagne. Il n'y a pas forcément d'action secrète ou en tout cas de recette magique, surtout que chaque campagne est unique. Donc, ce qui va marcher pour une ne va pas forcément marcher pour l'autre. Mais l'idée, c'est déjà d'analyser ce qui a bien fonctionné au moment du lancement et du coup de privilégier les actions qui ont bien fonctionné Si on se rend compte, par exemple, que les RP, les relations de presse, ça fonctionne très très bien, bah, essayer d'aller relancer les journalistes, donc vraiment faire ce travail d'analyse et surtout ne pas dépendre d'un seul canal, essayer de varier les canaux de communication. Donc ça peut être des RP, ça peut être la communication en organique sur les réseaux sociaux, ça peut être des pubs et voir ce qui fonctionne bien auprès de notre audience. Donc vraiment tester plein de canaux différents pendant toute la durée de la campagne et pas hésiter aussi à discuter. Moi, c'est ce que je conseille à chaque fois aux porteurs et porteuses de projets, d'aller discuter avec d'autres porteurs et porteuses de projets pour voir aussi ce qui a bien fonctionné chez eux, parce que ça peut donner des idées d'actions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Typiquement, mettre en place des partenariats avec d'autres projets, ça peut très bien fonctionner. Donc, ça peut être justement une action à activer au moment où on rentre un peu dans le creux de la vague.
Et donc après, on a le après justement le moment où on atteint les sommets de sa campagne. Est-ce qu'il y a des recommandations sur cette partie-là, sur la partie un petit peu customer care ou d'assurer bien les livraisons, les contreparties? Est-ce que tu recommandes des choses?
Ce qui est vraiment important, et ça d'ailleurs c'est une action à faire à la fois pendant la campagne et pour l'après-campagne, c'est de vraiment remercier toutes les personnes qui vous ont soutenu depuis le début. Donc ça, il faut le faire pendant la campagne, notamment via la partie news sur les plateformes de crowdfunding, donc qui sont envoyées à toutes les personnes qui ont contribué. Et du coup, pendant l'après, donc vraiment, ça peut être par exemple faire un mail ou même un live aussi, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus et commencer à parler de l'après. Donc typiquement, partager la date de livraison des contreparties, s'il y a une soirée de remise de contreparties, partager peut-être la date, le lieu, pour que les personnes puissent s'organiser. Donc vraiment, toujours être très transparent et leur faire partager aussi les actualités de la marque. L'objectif, c'est vraiment que ces personnes deviennent des clients et des clientes de la marque, n'aient pas fait juste une contribution un peu en one shot. Donc maintenant, il faut créer un lien durable du coup avec cette communauté. Donc communiquer très régulièrement, leur demander leur avis aussi. Si par exemple c'est une marque qui souhaite produire d'autres produits, elle peut demander l'avis, vraiment aller co-créer du coup ces produits avec la communauté. Donc tout ça, c'est des actions qui sont vraiment importantes, mais le plus important, c'est continuer à communiquer, même si parfois c'est pour des mauvaises nouvelles. Si par exemple vous avez un retard de production, surtout il ne faut pas faire l'autruche, il faut vraiment communiquer, être très transparent, expliquer pourquoi. On peut tout à fait le comprendre, on sait que c'est des marques qui se lancent, mais par contre ce qu'on ne pourra pas comprendre, c'est pourquoi la marque ne nous a pas informé s'il y a un retard de production. Donc vraiment continuer à maintenir ce lien qui a été créé pendant la campagne de crowdfunding.
J'ai quelque chose pour toi. Si en ce moment tu galères un peu avec ta communication et que tu te sens perdu, je t'ai concocté un test où tu pourras évaluer ton niveau de kiff et ton impact dans ta com. Je te mets le quiz directement dans les notes de cet épisode. Grâce à lui, tu pourras avoir ton profil de communicante et des astuces adaptées à ta situation du moment, ainsi que des actions concrètes à mettre en place pour booster ta visibilité. Allez, n'oublie pas de télécharger ton quiz.
Du coup, tu nous as expliqué la théorie. Si tu veux bien, maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre dans le concret en prenant un exemple ou même deux exemples de marques. Peut-être si tu es à l'aise en les citant ou sinon sans les citer, juste pour que les personnes, elles puissent se projeter. Alors, admettons que je suis une marque de vêtements spécialisée dans le sport, on va pas dire quel sport, mais pour les femmes. Après, c'est à toi de voir si t'es à l'aise pour citer la marque ou pas, mais en tout cas, pour s'il y a une personne qui veut se lancer, qui a une marque de vêtements, ou ça peut marcher aussi pour cosmétiques ou autre, mais en tout cas, concrètement, est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment tu conseillerais cette porteuse de projet pour lancer sa campagne Ulule, vraiment avec les étapes claires, ce que tu ferais pour qu'elle puisse se projeter en plus de la théorie, maintenant on rentre dans la pratique.
Ouais, ben on peut prendre un exemple concret. Pour le coup, c'est très transparent pour cette marque. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui s'appelle Turtle, qui est effectivement une marque de vêtements de randonnée pour les femmes, donc que j'ai accompagnée, enfin que je continue d'ailleurs à accompagner depuis un an, bientôt maintenant. Donc qui s'est lancée sur Ulule en juillet 2023, et avant le lancement, du coup, on a eu une phase de préparation qui était assez longue. C'était une phase de 6 mois à peu près. Donc j'ai commencé à les accompagner en novembre 2022. J'essaie de me souvenir des dates. Et du coup, la première partie de notre travail, c'était se dire, bon bah là, on est sur une marque qui part vraiment de zéro, qui avait zéro abonné sur les réseaux sociaux, zéro emailing collecté. Ils avaient juste créé la plateforme de marque. Donc ils avaient toute l'identité de la marque, la charte graphique, le nom, etc. Et l'idée, c'était de se dire, bah, comment on va mobiliser des personnes pour que la campagne soit un succès. Donc on a mis en place toute une stratégie qui reposait notamment sur des publicités méta. Donc on s'était dit, on a envie de parler de la marque, donc on va créer une landing page avec un message assez impactant. Donc le message, c'était marre d'être habillé en panneau signalisation dans la nature. Donc on avait vraiment une photo de banque d'images. C'était pas forcément la page la plus esthétique en soi, mais on avait réussi à toucher à la problématique de notre audience, avoir un message en plus un peu humoristique. Et du coup, on s'était dit, bah, on a cette page, on va utiliser les publicités Meta pour faire venir un maximum de personnes, donc de femmes en l'occurrence, sur la page et créer cette première base de données. Et comme ça, on pourra faire vraiment un teasing en envoyant des mails régulièrement pour commencer à parler de la campagne, à parler de l'histoire de la marque et surtout leur demander leur avis sur les produits. Donc, il y avait vraiment toute une stratégie de co-création où en fait, on leur envoyait des formulaires et on leur demandait leur avis, par exemple, sur la polaire de randonnée, savoir ce qui était plus important pour elles. Est-ce que c'était l'aspect éco-responsable? Est-ce que c'était le prix? Est-ce que c'était le poids des produits? Donc, vraiment tout un tas d'aspects techniques pour vraiment aller co-créer les produits avec la communauté.
Est-ce que du coup, dans cette landing page, avec une accroche forte qui est, bah, t'en as marre de ressembler à un panneau d'affichage alors que tu veux juste faire une randonnée et être classe, est-ce que c'était clair que les personnes, en laissant leur email, elles allaient rentrer dans la co-création d'une marque ou c'était plus en teasing et on savait pas trop ce qu'on allait faire en fonction de quand on laisse notre email, quoi?
Oui, c'était assez clair sur la landing page. En fait, on leur disait vraiment rejoins la communauté Turtle et co-crée avec nous les produits. Et la deuxième phase, c'était vraiment on leur disait tu peux tester les produits. Donc finalement, il n'y a pas eu vraiment d'essayage de produits. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur proposait ensuite de faire une visio avec Léopold, qui est le fondateur de Turtle, pour vraiment avoir leur retour en live et aller plus loin, du coup, dans ce principe de co-création. Et après, on avait donc la première phase, c'était qu'on redirigeait vers la landing page. Et la deuxième, c'est qu'on utilisait un format qui s'appelle les lead ads sur Meta, qui permettent d'avoir un formulaire intégré à la publicité. Donc, on clique vraiment sur la pub, il y a un petit formulaire qui s'ouvre. Et là, finalement, on avait intégré le formulaire de co-création directement à la publicité. Donc là, en fait, on a enlevé une étape, on ne les redirigeait pas vers la page, c'était vraiment je co-crée, et là, hop, on pouvait remplir le petit formulaire de co-création. Donc ça, c'est une stratégie, du coup, qu'on a utilisée pendant 6 mois et qui a été plutôt efficace, vu qu'on a collecté, on était quasiment à 20 000 adresses mail collectées et 8 000 abonnés sur Instagram, qui n'était pas notre objectif principal. Mais du coup, il y a pas mal de femmes qui se sont abonnées sur Instagram pour suivre justement les actualités de la marque et la création des produits.
Ok. Du coup, pour cette marque qui s'est lancée, pour toutes les porteuses de projets qui ont des marques en tête, donc l'importance de d'abord clarifier bah, sa plateforme de marque, sa mission, sa vision et avoir quand même une identité visuelle et un why qui se mettent en avant et qui sont plutôt attractifs pour ensuite bah, lancer une landing page alors que tout n'est pas fait en backup. Tout ce que nous a expliqué Clémence là, c'est que bah, la marque elle s'est lancée en mode co-création. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas les protos, ils avaient une idée de gamme, on va dire, ils n'avaient pas les protos, ils n'avaient pas encore les matières, ils n'avaient pas encore peut-être le fournisseur, le producteur, etc. Donc c'est vraiment y aller alors que tout n'est pas parfait. Investir du coup sur cette landing page avec les pubs Meta pour aller collecter ben, des personnes intéressées pour co-créer la marque. En plus de ça, Clémence nous explique que la marque a gagné 8 000 abonnés sur sa page Insta. Donc je pense qu'il y avait toute la stratégie de contenu qui doit être faite aussi en parallèle de cette campagne de nurturing, on va dire de là où on commence à susciter l'intérêt, alors que Ulule, la campagne Ulule n'était pas encore lancée. Tu nous dis que c'était 6 mois à l'avance, enfin, ou un peu moins, c'est ça? Et donc après, quelles ont été les étapes? Donc 8 000 abonnés sur Insta, 20 000 contacts collectés en email, ça fait une sacrée belle communauté. Alors qu'est-ce qui se passe après?
Ouais, bah, c'est très vrai ce que tu disais justement sur le contenu, parce qu'on leur a envoyé du coup du contenu à forte valeur ajoutée, on va dire, pendant toute cette phase de pré-lancement, parce que 6 mois, c'est une phase quand même de préparation qui est longue. Et on se disait, bah, le but, c'est de pas lasser ces personnes-là, qu'elles soient toujours mobilisées, qu'elles aient envie, du coup, d'attendre le lancement de la campagne. Mais vu qu'on avait très peu de contenu sur le produit, on ne pouvait pas leur envoyer des vidéos, leur envoyer des photos, des vêtements. Donc, on s'était dit, on va trouver d'autres types de contenus qui peuvent les intéresser. Donc, des idées de rando, des podcasts sur l'aventure. On savait exactement à quelle audience on s'adressait et ce qui intéresse cette audience. Donc, on a adapté le contenu en fonction. Et du coup, on arrive au lancement de la campagne sur Ulule, donc en juin 2023. Et là, l'idée, du coup, c'était de mobiliser ces 20 000 personnes qui nous ont laissé leur adresse mail, plus la communauté sur Instagram. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place. Déjà, toute la stratégie emailing, se dire, bah, là, il faut qu'on leur envoie des mails avec un taux de conversion assez élevé, leur donner vraiment envie de contribuer. Et du coup, on avait fait ce qu'on appelle en crowdfunding un lancement en sous-marin. Donc, c'est un peu un lancement en avant-première pour un petit groupe de personnes. Donc, généralement, c'est pour le premier cercle. Et du coup, on leur permettait d'accéder à des contreparties un peu spéciales. Donc, des packs avec les 3 vêtements et une réduction sur cette contrepartie pour les remercier à la fois de leur soutien depuis le début et les encourager à contribuer sans forcément attendre. Ça, c'était la première action. On avait fait aussi, enfin, en l'occurrence, le fondateur de Turtle avait fait un live sur Instagram au moment du lancement. Donc, c'était un live qui avait duré une trentaine de minutes pour expliquer le pourquoi de la campagne de financement participatif, revenir un petit peu sur les produits qui allaient être proposés, aussi sur l'après, comment Turtle voulait se développer. Donc, vraiment donner toutes les infos et pouvoir répondre aussi en live, du coup, aux questions de la communauté. Donc ça, c'est des actions qui ont été faites vraiment au moment du lancement. Et après, on a réactivé des pubs sur Meta, où là, on allait toucher pareil une audience vraiment très large. On les faisait venir sur la campagne Ulule. Donc le but était que les personnes contribuent directement à la campagne Ulule. Donc là, pour le coup, on allait toucher le troisième cercle, pas forcément des personnes qui ont laissé leur adresse mail. Donc c'était vraiment les grandes actions et après les actions plus classiques, médias, RP, etc., mise en avant aussi dans la newsletter Ulule, donc d'autres actions aussi qui ont bien boosté la campagne.
Du coup, sur la partie un peu plus aller toucher le deuxième et le troisième cercle, en termes de RP et de partenariat avec d'autres marques, est-ce que ça a été mis en place aussi concrètement?
Ouais, alors RP, il y a eu quelques mises en avant, pas beaucoup pendant la campagne. En fait, la problématique avec les RP, c'est que ça prend beaucoup de
Juste.
temps. Et pour le coup, on est vraiment dépendant du planning du coup des journalistes. Donc la mise en avant va pas forcément arriver pendant la campagne. Donc il y avait eu très très peu d'impact venant des RP. Et après, côté partenariat avec d'autres marques, ça n'avait pas été fait pendant la campagne Turtle parce qu'il n'y avait pas forcément de marques qui partageaient les valeurs de la marque. Et l'idée des partenariats aussi, et c'est ce que m'avait dit Léopold, le fondateur, c'est que le but, c'est quand même de créer une relation long terme, pas juste faire une action ponctuelle pendant la campagne. C'est vraiment de nouer un lien du coup avec ces marques pour avoir un partenariat sur la durée, donc même après la campagne de crowdfunding. Donc il n'a pas forcément voulu se presser et du coup c'est pas un levier qu'il a activé, mais qui aurait pu effectivement avoir un impact. Et d'autant plus quand on fait des partenariats avec d'autres projets sur Ulule, on sait qu'on s'adresse à une audience qui est quand même assez similaires, qui connaît déjà le fonctionnement du financement participatif. Donc, ce sont des leviers aussi qui peuvent être très efficaces.
Hyper intéressant de voir enfin concrètement comment ça s'est passé. Est-ce que tu as une idée de grandeur de budget justement pour parce que du coup pour créer sa campagne de crowdfunding, il y a toute la partie budget de créer sa plateforme de marque, créer peut-être la vidéo de d'annonce du projet un peu plus développé qui donne envie ce que j'appelle la vidéo à la respire, quoi, qui est un peu un incontournable quand on fait une campagne de crowdfunding pour connecter, expliquer le projet, qui sont les fondateurs, quelle est la mission. En fait, on explique la plateforme de marque en vidéo, en gros, c'est ça. Après, tu nous as parlé de Meta. Est-ce que voilà, tu as un ordre de grandeur pour aller chercher ces 20 000 contacts et ces 8 000 abonnés à peu près?
Pour le budget de campagne, c'est toujours une réponse un peu frustrante parce qu'il n'y a pas vraiment de budget, enfin de fourchette à investir. Déjà, tout va dépendre de l'objectif qu'on veut atteindre. On va pas forcément mettre en place les mêmes moyens si on veut atteindre 3 000 euros sur notre campagne que si on va atteindre 100 000 euros. Donc forcément, c'est ça qu'il faut prendre aussi en compte. Et après, la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas forcément cette information. Moi, je peux l'avoir en basant sur les porteurs et porteuses de projets avec lesquels j'ai travaillé, mais du coup, c'est vraiment un tout petit échantillon qui n'est pas forcément en plus représentatif, vu que généralement, c'est des projets qui collectent des montants assez conséquents. Donc, il n'y a pas d'enveloppe forcément minimum à investir pour que la campagne soit une réussite. On peut avoir des vidéos de campagne qui sont hyper efficaces avec très très peu de moyens qui ont été investis. Donc juste un script très efficace, une bonne qualité vidéo, mais juste tournée au smartphone. Donc il ne faut pas forcément se dire, il faut absolument prendre une équipe de vidéaste et avoir une vidéo à la Respire, ou il faut forcément investir en pub. Les pubs, ça reste un levier qui permet d'aller toucher beaucoup de personnes, qui peut être très efficace. Mais il y a des campagnes qui réussissent très bien. Je pense notamment à Zeta, la marque de baskets en déchets viticoles recyclés, qui avait très très bien réussi sa campagne avec notamment des RP et la presse locale. Donc vraiment, il n'y a pas de recette magique. Il y a des choses qui peuvent très très bien fonctionner sans de gros moyens investis.
Du coup, comme
Et
tu
en...
disais, ça dépend aussi de l'objectif.
Oui.
Effectivement, si c'est une campagne à 100 000 euros, ben pour lancer une première commande et que c'est ton fournisseur, tu sais que il faut qu'il y ait, je sais pas, 30, 50 000 pièces. Voilà, c'est un ratio un peu élevé au prix unitaire, mais bon, c'est pour que vous compreniez l'idée. Bien sûr qu'on va investir en fait plus pour s'assurer que la première production ait lieu. Et ça dépend de chaque projet, comme tu le disais. Là, on est sur la partie du coup produit. Tu nous as donné cet exemple avec la marque Turtle. Merci de nous avoir donné ce concret en fait, parce que je trouve que c'est ce qui manque souvent quand on parle de campagne UU. Il y a la théorie, mais après concrètement, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que la marque Turtle avait lancé vraiment un seul produit phare, ou elle s'était lancée dans une gamme pour la première prod? Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi pour ça? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui se posent la question, mais est-ce que ça peut marcher si je lance qu'un seul produit? Ça va lasser ma cible, etc. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça?
Ouais, en l'occurrence, pour Turtle, il y avait plusieurs produits qui avaient été financés pendant la campagne. Donc, la polaire de randonnée en deux coloris différents, le t-shirt et le pantalon qui s'appelle le Tanto. C'est à la fois un pantalon et un short. Donc, c'est les trois produits du coup qui ont été lancés. Et là, du coup, l'idée pendant cette phase donc post-campagne, c'est de continuer à développer la marque avec d'autres produits. Donc, par exemple, une brassière de randonnée, une veste de randonnée. Donc là, on continue du coup cette phase de co-création. On continue à demander leur avis à la communauté pour aller construire du coup les prochains produits pour Turtle. Mais il y a des campagnes aussi monoproduits qui fonctionnent très très bien. Bah, typiquement les marques de baskets, il y en a pas mal qui sont lancées sur Ulule. Généralement, on commence avec une seule gamme et même une seule paire de baskets. Il n'y a même pas forcément de variation en termes de coloris. Et ce sont des campagnes aussi qui peuvent très très bien fonctionner sur les plateformes de crowdfunding.
Et du coup, ça veut dire quoi concrètement en termes de critères chiffrés, une campagne qui performe? Est-ce que c'est 100% d'objectif, 300? C'est quoi pour toi une campagne du coup pas qui performe, qui cartonne?
Ouais, bah une campagne qui cartonne, c'est une campagne qui atteint son. On parle souvent d'objectif affiché et objectif, on va dire idéal, et c'est une campagne qui atteint son objectif idéal, donc qui peut varier en fonction des projets. Mais c'est bien toujours se fixer en amont, se dire mon objectif affiché, donc c'est vraiment le minimum dont je vais avoir besoin, par exemple pour lancer la production, donc pour concrétiser le projet. Et en interne, on se fixe un objectif à atteindre, donc celui vraiment qui nous permettrait d'être confortable et de couvrir tous les frais liés à la campagne. Donc
Et
ce
du coup,
chiffre peut vraiment.
d'ailleurs, tu recommandes d'annoncer en fait si le 100% d'objectif atteint, voilà, enfin en gros ce que ça permet, 200%, ça permet d'aller plus loin. Est-ce que tu recommandes d'être transparent aussi avec eh bien son audience, la communauté sur les différents stades que ça permettrait?
Ouais, complètement. Ouais, c'est important de définir ce qu'on appelle des paliers de dépassement. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire si on dépasse le budget, parce que le risque sinon c'est que la personne se dise bon bah c'est bon, ils ont atteint 100% de l'objectif, ils ont plus besoin de mon aide. Donc montrer que finalement la campagne a des ambitions qui sont beaucoup plus grandes et expliquer de manière très transparente ce qu'on pourra faire avec ce budget. Donc ça peut être par exemple une amélioration du produit, donc dire un nouveau coloris pour le pantalon de rando. Ça peut être aussi un gain pour les contributeurs et contributrices, donc dire on vous offre un savon zéro déchet dans tous les packs Tortle. Et ça peut être aussi on organise une grande soirée de remise de
Turtle
contrepartie,
party.
une turtle party exactement, avec des petites tortues partout, si on atteint 300% sur la campagne. Donc varier les paliers de dépassement pour que vraiment la personne ait envie de contribuer, et aussi pour que les personnes ayant déjà soutenu le projet, elles de leur côté, aient envie de partager la campagne. Se disent, bah, c'est génial, moi j'ai envie de recevoir mon petit savon, bah, du coup je vais partager autour de moi pour que la campagne atteigne et dépasse ce palier.
Du coup, ça, c'était les bonnes pratiques pour une campagne Ulule dans le cadre d'un produit. Est-ce que tu aurais un exemple, peut-être un peu plus rapidement pour aller plus à l'essentiel, sur peut-être un service ou peut-être un lieu pour aussi que les personnes puissent se projeter. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont, par exemple, qui ont déjà un concept store en marketplace, mais qui voudraient lancer le lieu physique, ou peut-être un service, quelque chose que tu as accompagné qui n'est pas un produit, en fait.
En service, alors je pense à une campagne que j'ai accompagnée, enfin une marque qui s'appelle Gringo, qui est une plateforme de réservation d'hébergement éco-responsable, et qui avait lancé la campagne au moment où en plus le site était déjà live, il y avait déjà des hébergements qui étaient disponibles sur la plateforme. Et du coup, l'objectif là de la campagne, c'était à la fois un objectif financier et à la fois un objectif en termes de communication, donc vraiment gagner en notoriété et en visibilité. Donc c'est pour ça qu'ils avaient lancé la campagne sur Ulule. Et l'enjeu était justement de se dire comment on peut créer un plan de contrepartie suffisamment attractif alors qu'on n'a pas de produit à envoyer. Donc vraiment donner envie de soutenir la campagne. Donc là, on avait fait tout un travail justement sur la définition des contreparties. Et ce qu'on avait mis en place, c'était des bons d'achat, avec justement des tarifs réduits pour que les personnes puissent aller réserver une nuit ou plus sur Gringo. Donc en plus, ça leur permettait aussi d'acquérir de nouveaux clients qui vont peut-être en plus réserver plusieurs nuits. Donc en soi, c'est un mécanisme qui peut être rentable, et aussi de jouer sur d'autres contreparties plus matérielles. Donc on avait par exemple créé une contrepartie qui s'appelle Gringo paye l'apéro, où on envoyait une bouteille de vin d'un producteur de vin que l'équipe connaissait, un tire-bouchon en bois, donc que des produits aussi qui sont liés aux valeurs de la marque. Donc c'est vraiment essayer de jouer sur les contreparties pour se dire, on a un service, mais comment on peut faire pour éventuellement avoir des contreparties matérielles, symboliques, mais qui donnent envie quand même de contribuer, ou alors qui soient liées directement au service. Donc ça peut être de tester la plateforme en avant-première, de participer à une soirée, une rencontre avec les fondateurs et fondatrices, et ne pas hésiter aussi à aller s'inspirer d'autres campagnes de services, même si ce sont des services différents, ça peut donner des idées aussi.
Et du coup, quels avaient été les leviers d'acquisition que tu avais mis en place pour Gringo?
Pour Gringo, on avait activé la publicité sur les réseaux sociaux. Il y avait eu plusieurs mises en avant aussi dans les RP, enfin des relations presse. Je ne sais plus exactement quel média, mais je pourrais retrouver. Donc, ils avaient vraiment créé un communiqué de presse expliquant pourquoi ils lançaient la campagne de crowdfunding. Donc là, c'était l'objectif, c'était développer vraiment la plateforme et avoir des hébergements un peu partout en France. Et après, ils avaient activé aussi leur base. Donc le premier cercle, essayer aussi de mobiliser toutes les personnes qui connaissent déjà Gringo, qui ont peut-être déjà réservé sur la plateforme. Donc là, vraiment faire des mailings à toute la base newsletter, donc de personnes qui connaissent déjà la plateforme, qui aiment cette plateforme et qui ont envie de la soutenir d'une manière, même si c'est juste en choisissant une contrepartie plus symbolique. Et on avait vu d'ailleurs qu'il y avait un pourcentage de dons qui était assez élevé sur cette campagne, de personnes en fait qui découvraient Gringo et qui disaient bah le principe est génial, J'ai pas forcément envie de recevoir une des contreparties, mais j'ai envie de vous soutenir. Donc, je vous fais un don de 20, 30 euros, peu importe. Mais en tout cas, des personnes qui avaient envie de soutenir la campagne. Et ce qui avait bien marché aussi, c'était en plus du côté organique, toute la communication sur LinkedIn. Notamment un des fondateurs, Guillaume, est très actif sur LinkedIn, a une grosse communauté. Et lui, il avait aussi fait plusieurs posts qui avaient pas mal de portée et d'impact sur la campagne.
Tout à l'heure, tu nous parlais pour la marque Turtle de l'ads avec un peu décalé, avec vous n'avez pas envie de finir comme un panneau d'affichage dans la forêt. Quel type d'accroche tu as utilisé pour ce type de service? Est-ce que c'était plus une accroche, enfin dans les ads, plus traditionnelle? Comment en fait vous avez pu mobiliser l'acquisition vu que c'est complètement différent comme service? Quelle a été l'approche dans ce cas-là?
On avait testé plusieurs formats, un peu de vidéo, des visuels statiques aussi, vu que finalement on avait la possibilité d'avoir des photos aussi très inspirationnelles, avec justement des hébergements un peu insolites qu'on peut trouver sur Gringo. Et d'ailleurs, la pub qui avait mieux fonctionné, c'était juste la photo d'un hébergement. Et en termes de messages, alors ça fait déjà un moment qu'on a lancé la campagne, mais je crois que c'était des messages vraiment très très simples où on leur disait participe au développement de Gringo, l'alternative responsable à Booking et Airbnb. Donc en soi, c'était un message qui était relativement simple, mais ce qu'on voulait, c'était que la personne qui voit la pub comprennent vraiment quelle est la promesse, la proposition de valeur de la marque et qu'elle ait envie d'agir avec nous. Donc après, on l'a redirigée vers la campagne sur laquelle, là, par contre, il y avait vraiment toutes les informations, le pourquoi, plus d'informations sur Gringo avec des statistiques. Donc en termes de message, on était sur quelque chose de relativement simple, mais en tout cas très clair.
D'accord. Je pense que c'est hyper intéressant de voir ces deux exemples pour justement que les personnes se projettent soit en début de projet pour la partie produit, c'est souvent de se dire quand est-ce que je vais être prête pour lancer ma campagne. Moi, je croise beaucoup des personnes qui attendent trop longtemps, qui vont lancer la campagne une fois que tout est prêt et qui sont parfois après affolé parce que la campagne elle prend pas assez. Toute la partie pré-campagne que tu nous expliquais avec la construction de la communauté, je pense qu'elle est primordiale et elle est souvent malheureusement négligée. Donc là, le but de cette expert talk, c'est que vous, mesdames qui avez des projets à impact, commencez à construire votre communauté, commencez à parler de votre projet, ne restez pas dans l'ombre, que vous ayez une campagne de crowdfunding ou pas d'ailleurs, ne restez pas dans l'ombre, commencez à en parler même si tout n'est pas parfait. La deuxième chose, c'est que on pense souvent que le crowdfunding, ça s'adapte que aux projets en early stage qui sont en lancement et en produit. Là, tu nous as montré que ça pouvait être aussi sur des projets qui sont plus en développement et en service, ou en tout cas en plateforme. Ça peut donner aussi des idées pour des personnes qui se demandent comment avoir plus de visibilité, comment développer leur projet. Peut-être que la campagne de crowdfunding, ça peut leur permettre de faire des préventes ou des ventes groupées et de sensibiliser sur l'existence du projet et avoir de belles retombées presse aussi. Est-ce que tu as d'autres conseils justement à nous donner sur peut-être le après? On a parlé du après. Une fois que, ok, on est content, on a les commandes et tout s'est bien passé, la marque ne s'arrête pas de tourner après. Il faut continuer à alimenter l'acquisition. Donc, qu'est-ce qu'on fait après tout s'est bien passé, on est content, mais comment ne pas retomber dans le creux de la vague du Ulule où on se retrouve avec, ok, on a les préventes, mais après, on a zéro vente récurrente qui revient. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour finir en beauté?
Après, déjà, moi, je trouve ça hyper important de faire une espèce d'analyse sur ce qui a bien fonctionné. C'est génial de se dire, on a collecté, j'en sais rien, 50 000 euros, mais savoir ce qui a bien fonctionné, finalement, à tout point de vue, la campagne Ulule, c'est un test. Donc, c'est aussi tester les canaux qui, pour cette marque en particulier, vont bien fonctionner. Donc, si vous voyez, par exemple, que la stratégie emailing, elle fonctionne vraiment bien pour vous, bah, peut-être privilégier ce canal. C'est impossible d'être partout. Il y a un moment où il faut vraiment savoir prioriser, donc faire cette analyse et en fonction, du coup, peut-être revoir sa stratégie de communication et vraiment définir les leviers à activer en priorité. Ça, je pense que c'est hyper important de le faire et surtout continuer à impliquer du coup la communauté comme on peut le faire en phase pré-lancement. Mais finalement, c'est valable pour une campagne de crowdfunding, mais c'est valable globalement quand on développe une marque. Donc, demander leur avis, faire des formulaires de co-création, essayer d'organiser une soirée, un peu un espèce de focus group pour demander du coup l'avis de nos clients et clientes. Ça, je trouve que c'est hyper important et ça permet de créer un lien hyper fort et qui sera ensuite durable du coup avec notre base de clients et clientes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment clé et c'est vraiment des choses, et ça c'est valable en crowdfunding en général, qui peuvent être appliquées avant, pendant, après une campagne de crowdfunding.
C'est hyper intéressant de voir comment garder le lien, comment garder le contact et continuer pour nourrir le développement de la marque. Et justement, en parlant de développement de marque et de développement de campagne, comment est-ce que toi, tu accompagnes eh bien, les porteurs de projets justement qui veulent faire une campagne de crowdfunding qui cartonne? Comment est-ce que tu peux les accompagner? Est-ce que tu as différentes formules? Dis-nous tout.
Ouais, alors il faut les accompagner de différentes manières. La première, ça va être vraiment juste une mission de coaching. Donc si par exemple une porteuse de projet a des questions très spécifiques sur la campagne, sur la mise en place de sa stratégie d'acquisition pendant une ou plusieurs heures, moi je peux lui donner des conseils et l'accompagner. Donc ça, c'est la première possibilité d'accompagnement. La deuxième, ça va être un accompagnement plus stratégique, donc définir ensemble toute la stratégie de campagne, les leviers à activer, les messages, le contenu de la page, la définition des contreparties, donc tous les aspects à travailler au moment d'un lancement de campagne. Et du coup, la troisième, c'est plus un focus sur la partie acquisition, justement. Donc, moi, généralement, je travaille de manière assez opérationnelle, donc je vais vraiment définir la stratégie publicitaire et après mettre en place les pubs, faire le suivi des pubs. Donc c'est typiquement ce que j'ai pu faire avec Tortle. Donc pour des porteurs et porteuses de projets qui ont envie de mettre en place des publicités mais qui n'ont pas forcément le temps ou la compétence en interne, là moi je peux le gérer de mon côté en travaillant bien sûr main dans la main avec les porteuses de projets. C'est vraiment les trois types d'accompagnement que je peux proposer.
Génial. Je pense que ça permet de se projeter, de se dire, lancer une campagne de crowdfunding, c'est un vrai projet de marque et ça nécessite parfois un vrai investissement quand on veut que ça cartonne, et faire appel à une experte, parfois, ça permet de s'assurer de bon déroulement de sa campagne. Est-ce que pour le mot de la fin, tu aurais un conseil à donner justement aux personnes qui songent à se lancer dans une campagne de crowdfunding? En plus de tout ce que tu nous as déjà délivré, un conseil final, peut-être une ligne directrice, dis-nous tout.
Le dernier conseil, je pense que ce serait, alors pareil, c'est à la fois en crowdfunding et en entrepreneuriat en général, c'est vraiment de pas hésiter à demander des conseils et à être bien entouré. Et surtout, on sait qu'il y a quand même une espèce de solidarité entre porteurs et porteuses de projets. Donc, pas hésiter à aller les contacter sur Instagram, sur LinkedIn, faire un petit appel et comprendre ce qui a bien fonctionné pour les autres. Ça va aussi aller nous rassurer parce qu'on se dit, mais il y a tellement de choses à faire, comment je vais réussir à tout mettre en place? Donc, juste d'échanger avec des personnes qui ont été dans cette situation, ça va vraiment aider. Et donc, vraiment être bien entouré si on sait qu'il y a certains leviers qu'on ne peut pas du tout gérer. Ne pas hésiter à demander aussi à des experts, donc se faire
C'en est
accompagner.
fini pour
C'est vraiment
l'épisode du
la
jour.
clé
J'espère
pour
qu'il t'a
réussir sa
plu.
campagne
Si
et
c'est le cas,
réussir en
n'hésite pas à lui
entrepreneuriat.
laisser une
Trop bien.
pluie d'étoiles
Merci
sur
pour
ta plateforme d'écoute
ces
ainsi qu'un
pépites que tu
commentaire.
nous as partagées,
Je t'invite aussi
Clémence.
à télécharger
Dis-nous juste
les
où est-ce qu'on peut te
ressources
retrouver
disponibles
si on
pour
a envie de
chaque
se faire
épisode et je
accompagner
te
par
fais
tes
des
soins,
plus cadeaux.
justement. Bah,
Elles sont
merci à
dans l'email,
toi. Et du
juste
coup,
en
vous pouvez me
dessous.
retrouver sur
N'hésite pas à venir me voir
LinkedIn,
sur
Clémence
Instagram,
Chauffé, et sur mon site internet,
@happysifunky ou sur
clémencechauffé.com.
LinkedIn,
Trop bien. Bah, c'est noté.
@nataliegaglia.
Merci
Et en
beaucoup,
attendant le
Clémence.
prochain épisode,
Merci à
je te
toi.
souhaite une belle réinvention.
On the count of three, bad bitch, you get money. Broke niggas to the left, we don't want it. I don't know any bitch you hate, but they can't get past. Pretty face, no waist, and a big old ass, huh? Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let you try it.